Une seule chose est nécessaire, la solitude, la grande solitude intérieure. Aller en soi-même et ne rencontrer pendant des heures personne, c'est à cela qu'il faut parvenir. C'est avec ces mots que Rainer Maria Rilke parlait de la solitude, et l'on sait que c'est dans cet espace intérieur qu'a jailli l'œuvre magnifique du poète autrichien. La solitude, nous en faisons tous l'expérience. Certains la fuient par tous les moyens, d'autres la recherchent à tout prix. Elle peut faire atrocement mal comme elle peut combler de bien celui qui s'y réfugie. Mais qu'est-ce que la solitude et comment l'apprivoiser? Cette semaine, je vous propose d'approfondir la question en compagnie de Catherine Terninck, psychanalyste. Son dernier livre paru au Seuil s'intitule « L'homme de sable ».
C'est probablement l'une des humeurs ou l'un des sentiments les plus évoqués dans le cabinet d'un psychanalyste. Et l'une des souffrances les plus couramment évoquées, je suis seule, je me sens seule. La difficulté à donner une définition, c'est qu'il y a de multiples formes de solitude. D'emblée, pour clarifier les choses, je différencierais le sentiment de solitude de la solitude réelle. On peut très bien être dans une foule et se sentir seul. On peut très bien être réellement seul sans se sentir seul. Donc je différencierais le sentiment de la réalité elle-même. Et puis, il y a de multiples vécus de solitude. Certaines peuvent aller jusqu'à un vécu de dépression, de délitement, d'ennui, de morosité. D'autres formes de solitude sont plus marquées par la méfiance, seul contre tous, seul en méfiance par rapport à un monde hostile. Il y a donc des tonalités extrêmement différentes.
Mais pourquoi la solitude, généralement, fait peur?
La question, elle est large aussi, elle est vaste. Je suis pas sûre que tout le monde ait peur de la solitude. Comme vous le disiez tout à l'heure, certaines personnes s'y réfugient ou la recherchent. Probablement que l'un des critères de la maturité ou de la santé psychique, c'est cette capacité qu'a une personne à se mouvoir entre l'autre et soi-même. Ça me plaît de penser ça. Enfin, parmi les multiples définitions de la santé psychique, il y aurait celle-là. Quelqu'un qui est trop en solitude se prive de la relation à l'autre et de l'autre pour se constituer. On se nourrit de l'autre, on naît de l'autre. Et quelqu'un qui fuit sa propre solitude en étant tout le temps en recherche de liens, de rencontres ou de rendez-vous est quelqu'un qui probablement ne peut pas se trouver lui-même. Je crois qu'il y a un usage bénéfique et fécond de la solitude qui s'apprend assez vite d'ailleurs dans la vie.
Oui, la solitude, vous l'associez à la relation. C'est-à-dire qu'il y a moi, les autres, l'espace entre deux. On ne peut pas parler de solitude sans parler des autres.
Oui, et les psychanalystes diraient que la capacité à être seule dépend probablement, en tout cas est grandement influencée par la capacité qu'a eue cette personne à mettre l'autre en soi. C'est-à-dire à comprendre ce qu'est l'altérité. L'altérité, ce n'est pas que la relation externe à l'autre, c'est aussi la façon dont on l'intègre en soi-même. On lui offre une sorte d'hospitalité psychique. On pourrait dire que c'est parce que ça a été réussi ou suffisamment exercé pendant l'enfance que une personne devenue adulte a cette capacité d'être en bonne compagnie avec soi-même, d'être ami pour lui-même, au fond d'avoir une vie intérieure, d'avoir un dialogue intérieur, ce qui me paraît essentiel dans une vie.
Mais revenons avec vous justement, Catherine Terninck, sur l'enfance, puisque c'est là, je crois, que se joue l'apprentissage de la solitude.
Oui.
Vous parliez de la capacité à être seule. Je crois que c'est un texte de Winnicott, qui est un fameux pédiatre et psychanalyste anglais.
Absolument.
Qu'est-ce qui se joue entre le petit enfant et sa mère?
C'est probablement un des acquis de l'enfance les plus importants parce qu'il accompagnera toute l'existence. Au fond, on est fondamentalement seul au grand moment de la vie, la naissance, la mort, les grandes épreuves. Et aussi fort soit notre désir de rencontre ou de fusion, nous savons que nous sommes seuls dans nos souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Alors, il revient probablement aux parents d'apprendre, mais je ne sais pas si le mot apprendre est juste, en tout cas d'exercer l'expérience de solitude auprès de leurs jeunes enfants.
Comment?
Alors, je vais vous donner un petit exemple qui me vient. Là, j'y ai pas pensé depuis longtemps, mais il me revient en vous écoutant. Prenons ce moment de solitude extrêmement quotidien qu'est l'enfant au coucher. Le moment où l'enfant, donnons-lui entre 2 et 5 ans, se trouve dans son lit, où maman va éteindre la lumière et où il va être seul au seuil de la nuit. À ce moment, qui peut être inquiétant à cet âge-là, de l'endormissement. Eh bien, vous avez trois types de mères. Je caricature, mais c'est pour donner un peu le ton et nous aider à réfléchir. La première de ces mères n'est pas concernée. Elle est pressée, elle veut regarder son programme, elle a ses soucis, elle colle l'enfant et maman est partie. Cet enfant peut être paniqué, peut se mettre à crier, elle ne l'entendra pas. Il y a le téléphone, il y a la télévision. L'enfant peut, dans les cas les plus forts, taper la tête contre le mur, se mordre. Il est en détresse, il est en effroi. Prenons un autre type de mère. Cette mère est extrêmement attentive, elle sent que son enfant a peur, « Ne me quitte pas, maman, ne me quitte pas ». Elle prend la main de cet enfant et elle attend que l'enfant soit endormi pour lâcher la main et repartir à son travail.
Ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps. Et puis surtout, ça va créer des habitudes dont il sera difficile de sortir. Prenons une troisième mère qui va raconter une histoire, une courte histoire, un petit conte, une histoire personnelle inventée ou une histoire lue. Il va dire, ou bien qui va dire à son enfant, pense, demain c'est mercredi, tiens, on va aller voir telle personne, tiens, on va faire telle chose, endors-toi avec ça, je suis à côté, je suis pas loin. Eh bien, vous avez trois gestions parentales, maternelles, de la solitude. Dans le dernier cas, qui est évidemment le plus souhaitable, l'enfant peut s'endormir avec des pensées rassurantes, celles du conte, celles de l'histoire, celles de ce qu'il fera demain ou aux vacances prochaines. Il est en compagnie. Sa maman lui a donné les moyens, les outils pour traverser un moment de solitude. C'est moins le cas, vous le sentez, dans l'exemple précédent, et c'est pas du tout le cas dans le premier exemple où cette mère ne sent pas que cet enfant est en détresse. Alors je sais pas si je réponds, mais je vous propose trois façons, plus ou moins bonnes, de sensibiliser l'enfant à la solitude.
Repère RCF.
Catherine Ternac, nous parlons avec vous de la solitude. Vous avez parlé de l'enfant qui, face à une séparation, va ressentir un tiraillement, parfois de l'angoisse. Les mots de la mère dans l'exemple que vous avez cité ont été importants. Parler du lendemain, raconter une histoire. En quoi ces mots aident à apprivoiser la solitude ?
Parce que l'enfant va progressivement le faire pour lui-même. Au fond, devenu adulte, dans le meilleur des cas, nous reproduisons de nous à nous ce que nos parents ont fait de bon pour nous. C'est ça, être adulte. C'est essayer de ne pas répéter ce qui a été moins bon et se servir de tout ce qui nous a été donné pour nous aider à vivre le mieux possible. Je me souviens d'une patiente qui me disait « je devais aller seule à l'école et c'était loin et il y avait un passage qui me faisait peur. » Et ma maman me disait « chante et tant que tu chantes, je t'entendrai. » Ce qui était une illusion, elle pouvait pas entendre. Et cette patiente de me dire « j'ai chanté, j'ai ainsi appris à chanter sur le trajet de l'école et j'ai continué, je continue à chanter maintenant. »
En quoi le fait d'avoir pu entendre une voix, la voix de sa mère, d'avoir pu être rassurée dans l'enfance, va aider ?
Il faudrait peut-être partir de la notion de vide dont on parle tellement aujourd'hui. Eh bien, on pourrait dire que une grande mission éducative consiste à permettre à l'enfant à habiter ce vide intérieur qui nous constitue en tant qu'humains.
Le manque, donc la partie manquante, l'espace en nous.
Oui, on pourrait dire d'ailleurs que le manque, c'est le vide bordé. Mais lorsque ce vide n'est pas bordé, il est envahissant et il peut donner lieu à des tentatives de remplissage et des addictions multiples, se remplir par la nourriture, par la musique, par l'agir, l'agitation. Au lieu de ça, proposer une pensée, proposer une réflexion, proposer une rêverie, c'est permettre à l'enfant et à la future adulte de nourrir une vie intérieure, d'habiter ce vide, d'en faire un espace ressource qui lui servira bien évidemment très souvent.
Donc l'enfant qui a vécu ça en petit va le garder avec lui toute sa vie, cette capacité à aborder justement...
À s'habiter lui-même, à composer avec ce vide pour en faire un espace fécond, un espace de pensée, un espace de recueillement, un espace d'introspection au sens léger du mot, un espace d'autocritique, de remise en question, un espace de réflexion, au sens le plus simple du mot. Une réflexion, ce qui ne contredit pas, d'ailleurs n'interdit pas le fait, au contraire, de s'exprimer, de sortir de soi, d'aller vers autrui. Hein. Mais c'est ce va-et-vient entre soi-même et l'autre qui me paraît, constituer la force d'une personne, sa force identitaire, son équilibre.
Catherine Ternin, vous avez évoqué les addictions.
Oui,
qui sont très répandus aujourd'hui, se remplir de quelque chose. Alors ça peut être la nourriture, l'alcool, mais il y a aussi la boulimie de travail. Quel lien entre l'addiction et la peur de la solitude ? Vous avez déjà commencé à en parler ?
Oui, c'est vrai que les addictions, qui sont d'ailleurs le revers de la dépression, aujourd'hui dépression et addiction pourraient être comprises comme les deux faces d'une même médaille. Parce que le vide peut entraîner vers la dépression, il faut y remédier par des addictions diverses, qui en effet ne sont pas toujours des addictions à l'alcool, à la cigarette ou à la nourriture. Elles peuvent l'être et elles le sont parfois. Mais il y a d'innombrables formes d'addiction. Je pense à l'addiction d'Internet. Aujourd'hui, toute personne est un addict potentiel. Il y a une potentialité addictive extrême compte tenu de l'intolérance au manque. Nous ne tolérons plus le manque parce que sans doute notre culture ne le tolère plus et parce que ce vide intérieur peut nous effrayer. Alors il faut mieux le remplir. On voit ça d'ailleurs chez des jeunes parents des jeunes mères qui expliquent avec certaines d'entre elles en tout cas beaucoup de simplicité que le mercredi à la maison elles se sentent en nécessité d'occuper l'enfant. Que l'enfant est un mercredi absolument occupé, voire rempli jusqu'à ras-bord, elle se couche contente le mercredi soir. Alors qu'au fond, certaines en capacité d'autocritique vous disent « mais au fond, ce que je ne tolère pas, c'est qu'un mon enfant soit un petit peu ennuyé, joue avec deux crayons, un bout de scotch et un bout de papier. » Or, cet enfant bénéficierait sans doute beaucoup de ne pas être suroccupé. L'occupationnel est une façon de remplir, sans doute excessive aujourd'hui. La solitude peut inclure une part d'ennui. Beaucoup de grands talents, qu'ils soient scientifiques ou littéraires ou économiques, lorsqu'ils parlent de même petits, disent qu'ils se sont beaucoup ennuyés. L'ennui n'est pas... Alors, il y a différentes formes d'ennui, comme il y a différentes formes de solitude. Il y a des ennuis qui sont de mauvais aloi, qui sont tristes, assombris, dépressifs. Mais il y a des ennuis très féconds. Et de temps en temps, qu'une mère regarde du coin de l'œil un enfant qui ne fait pas grand-chose et qui est dans son coin à jouer gentiment et à se raconter des petites histoires, c'est excellent. Plutôt que d'ouvrir le bouton de la télé et de le remplir d'images télévisuelles, a priori en tout cas, ça n'exclut pas que de temps en temps... un bon DVD soit bienvenu, mais en tout cas systématiquement tourner le bouton pour que l'enfant soit occupé, ça je crois pas que ça soit bon.
Donc les parents ont une responsabilité dans cette capacité de vivre en solitude, aider l'enfant à la vivre.
Oui, de tolérer en eux une part de solitude, ce qui leur permettra de la reconnaître et de la valider chez l'enfant.
repères, Béatrice Soltner.
Catherine Ternac, nous continuons à parler de la solitude. Nous avons beaucoup parlé de l'enfant. Une fois adulte, lorsque je n'ai pas appris à rester seule, quelle va être la conséquence dans ma vie relationnelle avec l'autre? Alors particulièrement dans l'amitié ou dans la vie de couple, puisque souvent les hommes et les femmes vont faire couple après.
Oui, c'est vrai. Eh bien, je crois que l'enfant qui n'a pas appris non seulement la solitude, mais l'altérité, c'est-à-dire l'autre en soi, et probablement risque de devenir un adulte mal préparé à la relation humaine. Il risque d'être ou trop loin ou trop près de l'autre. Il risque, alors trop loin, le risque c'est de vite se sentir abandonné, délaissé, méprisé, négligé, oublié. Et trop près, ce qui est très fréquent, c'est d'être extrêmement réactif aux attitudes, aux postures de l'autre, de les vivre sur un mode sensitif, parfois même interprétatif ou persécutif, de ne pas trouver la bonne distance, c'est-à-dire le flou, le mou qui existe toujours dans une relation. Il m'arrive de travailler avec de nombreux adultes cette question, avec cette idée qu'au fond, dans la relation avec autrui, il y a toujours quelque chose qui est raté. On ne peut pas tout attendre d'une relation, on ne peut pas attendre que l'autre comble totalement notre solitude. Il y a une part de rendez-vous manqué, on attend de l'autre plus qu'il peut nous donner, parce que fondamentalement on est différent, même de la personne la plus connue, la plus familière et la plus aimée.
C'est une difficulté ou une chance ça selon vous ?
Si on l'accepte, c'est une chance. Si on ne l'accepte pas, c'est évidemment une difficulté. Ça devient conflictuel. L'autre ne me comprend pas. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup, vous le savez bien, du pervers. Le pervers, c'est le méchant aujourd'hui. Le pervers, c'est l'autre, hein, c'est évidemment pas moi. Mais c'est l'autre qui me fait mal, c'est l'autre qui m'utilise à des fins personnelles. Alors, je crois qu'il y a sans doute beaucoup de personnes, plus qu'autrefois, qui ont des traits pervers. Mais toutes les personnes décrétées par l'autre comme pervers ne le sont pas forcément. Simplement, la personne qui dit que l'autre est pervers est peut-être une personne qui est intolérante au manquement de l'autre et qui se vit vite, un peu trop vite, comme le jouet de l'autre. Autrement dit, il y a de vrais pervers et il y a des gens qui ne sont pas nécessairement pervers. Simplement, ils sont manquants dans la relation à l'autre.
Et justement, accepter la solitude, c'est accepter que l'autre soit un être manquant et qu'il me manque.
Oui, c'est ça. Aimer, ce n'est certainement pas combler la solitude de l'autre, c'est l'accepter comme quelque chose qui ne sera jamais comblé. C'est prendre la mesure de la solitude de l'autre, y être attentif, mais ne pas combler. Si on attend que l'autre comble notre solitude, on est sûr d'être déçu. L'autre n'est pas là pour ça, même s'il est aimé, très aimé. Et en particulier l'enfant. L'enfant n'est pas là pour combler la solitude de son parent. Là, il y a une méprise assez fréquente, assez humaine d'ailleurs. J'entends une jeune femme me dire « Oh, j'arriverai peut-être pas à retenir mon homme, mais mon enfant, je le garderai toujours. » Bon, ben non, l'enfant, un jour ou l'autre, ne sera plus là pour combler sa solitude.
Catherine Ternin, quel est selon vous le bienfait de la solitude ? Qu'est-ce que ça permet de vivre en soi ?
Si je devais répondre comme ça vite, je dirais la maturité et la profondeur, ou l'intériorité. Je crois que si on accepte à certains moments, dans certaines circonstances, d'être seul, on approfondit notre humanité, on s'humanise au fond davantage, on échappe à la superficie des choses et à la rapidité des choses. Nous vivons dans une époque où on nous demande d'aller très vite, de surfer, alors que la solitude nous permet de temps en temps de prendre du recul sur les événements que nous vivons, sur la complexité des choses, sur les erreurs que nous faisons, sur les améliorations possibles. Je crois que la solitude et l'acceptation d'une certaine solitude, qui ne serait pas une fuite, est très importante dans une vie. On voit d'ailleurs, on s'en rend compte lorsqu'on parle avec des personnes, allez, largement engagées dans la seconde partie de la vie, on se rend compte si ces personnes ont accepté d'être seules avec elles-mêmes. Souvent, pas toujours, elles sont en bonne compagnie avec elles-mêmes. Et il en émane, il en résulte quelque chose qui retentit sur autrui. Être bien avec soi-même permet d'être en général bien avec les autres. Alors qu'on sent des gens, à l'inverse, qui fuient dans des relations et les multiplient et que l'on sent mal avec elles-mêmes, ne s'habitant pas assez, enfin fuyant dans le lien quelque part.
Comment, Catherine Terninck, faire ce travail d'apprivoisement d'une solitude lorsqu'on est plus âgé et qu'on n'a peut-être pas goûté justement à cette bonne solitude, qu'on souffre d'attachements trop intenses et qu'on aimerait goûter la quiétude d'être avec soi-même?
Je crois qu'on peut acquérir plus tard ce qui n'a pas été acquis au début de la vie et que c'est même un bel enjeu. Vieillir, c'est apprivoiser une solitude. La vie ne cesse de nous poser et reposer cette question-là. Je crois que ça s'acquiert. Ça fait partie des choses qui peuvent s'acquérir, si on le veut, à base de clairvoyance et de persévérance, ce qui sont les deux instruments du progrès, je crois. La clairvoyance, c'est-à-dire discerner ce qu'on a envie de changer, et puis persévérer une fois, deux fois, allez, on n'y arrive pas, puis on recommence, enfin, 10 fois, 100 fois sur le métier, 1000 fois, 10 000 fois sur le métier, remettre son ouvrage. Alors, comment apprivoiser la solitude? Eh bien, par exemple, en s'intéressant à certaines formes de lecture, en développant un sens musical, en écoutant de la musique, peut-être en priant pour ceux que ça peut aider, ou en
se retirant un peu de l'agitation.
Oui, oui. En rêvant aussi, en rêvant à ce qu'on aime, en pensant à ce qu'on aime. Je crois qu'il y a différents moyens, mais vous avez raison, avec le préalable de s'extraire de l'agitation ambiante.
Vous, Catherine Terninck, qui êtes psychanalyste depuis de nombreuses années, vous rencontrez des personnes qui, je suppose, veulent dénouer parfois un trajet où il n'y a pas eu la place pour se penser soi-même, pour avoir les mots. C'est des trajets pour retrouver une solitude, généralement?
Je dirais que la psychanalyse, telle que je la comprends et que je la pratique, est évidemment une invitation à certaines formes de solitude qui ne doivent pas être excessives. Hein. Il ne s'agit pas de tourner autour de soi-même, non. Mais ce retour à soi, en effet, l'analyse y prédispose. Au fond, après une cure ou une analyse, une personne est en capacité probablement d'être à certains moments de sa vie son propre analyste, donc de s'arrêter, de se retirer, de prendre un peu de distance, de marge, de réflexion, au fond d'aller vers certaines formes d'introspection. Bienvenue, ajustée, juste. Mais il n'y a pas que la psychanalyse, enfin on pourrait dire que d'autres formes de spiritualité y mènent aussi. Notre époque nous invite aussi, il y a de plus en plus d'invitations culturelles à penser le rapport avec soi-même, je trouve.
Comment les parents peuvent faire expérimenter concrètement à leurs enfants qu'il y a de la joie à rester seuls?
Winnicott, dont vous avez parlé tout à l'heure, parlait de la capacité d'être seul en présence de la mère. Eh bien, je crois qu'il est bon qu'à certains moments, la mère puisse dire à son petit ou sa petite, eh bien, joue un peu là, joue un peu, moi je suis pas très loin, mais nous avons chacun nos occupations. Et puis tu viendras me demander, et je te répondrai, mais qu'elle le laisse jouer. Imagine, pense, débrouille-toi, crée. Ou bien alors mets-toi dans ce petit coin de ta chambre, sur ta chaise, mets-toi à ta table, et puis trouve une idée. Puis tu vas voir quand tu vas la trouver, cette idée, et puis tu viendras m'en parler. En tout cas, la solitude est bonne. Elle est bonne à penser, elle est bonne à vivre, elle est bonne à transmettre. Elle fait partie de la bonne transmission. C'est ce que j'aurais envie de dire à un certain nombre de jeunes parents suraffairés, suractivés, suroccupés.
Merci à vous, Catherine Terninck. Pour ceux qui désirent vous lire, je cite deux ouvrages. L'homme de sable, c'est paru au Seuil. Et puis Chambre à part, chez DDB. Merci à vous.
Merci.